Notre texte aujourd'hui est dans Romains, chapitre 14, et c'est les versets 13 à 23. Romains, chapitre 14, versets 13 à 23. Donc, on va lire ces versets. À partir du verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc voilà le texte qu'on va voir aujourd'hui. C'est message numéro 32 dans la série. Romains chapitre 14, versets 13 à 23. Donc ça, c'est le milieu en fait du message parce que ça commence à Romains chapitre 14, verset 1, et ça se termine vers Romains chapitre 15, verset 7 ou 8. Pour aller au milieu, on va terminer la prochaine fois ce sujet que Paul a démarré dans Romains chapitre 14, verset 1. Mais je voudrais lire quand même versets 11 et 12 pour nous rappeler un peu le sujet. Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, pour dire que chacun est responsable devant Dieu pour sa propre vie. Et puisque chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, nous devons avoir confiance en Dieu d'agir selon sa justice et nous devons respecter la volonté de Dieu en nous aimant les uns les autres. Donc je vais insister sur cette idée que j'exprime en ce moment. En dehors de l'immoralité et de l'erreur doctrinale, il faut maintenir le droit de chacun à avoir ses propres opinions, que l'on ait raison ou pas. Avec la liberté d'avoir et d'exprimer ses propres opinions, vient aussi la responsabilité de respecter les opinions des autres. Moi, j'ai le droit à mes opinions, et chacun a le droit à ses opinions. Soyons clairs. Pour pouvoir s'entendre avec les autres dans un contexte multiculturel ou diverses personnalités ou de divergences quelconques, pour s'entendre, il faut respecter les différences chez les autres. Ce respect est le point de départ dans la discussion de Paul ici. Par la suite, Paul va dire que par amour pour son prochain, c'est-à-dire dans le désir de vouloir du bien à ton frère, le chrétien va non seulement respecter ses opinions et différences, mais aussi il va même parfois renoncer, temporairement bien sûr, à ses propres droits dans le but de faire du bien à son frère. Donc, notons encore que nous ne parlons pas ici du péché. Nous parlons de ce qui est le bien. Je pense qu'il dit cette phrase dans chapitre 15 et verset 2. Je vérifie. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Okay? Donc, on parle dans le contexte de ce qui est bien. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas être considéré comme étant une opinion ni un droit. C'est un péché. Un péché est un péché. Mais quand on respecte l'opinion des autres, il va de soi que nous n'allons pas le critiquer ou le condamner. On le respecte dans son opinion. Comme j'ai dit, qu'il a raison ou pas, eh bien, c'est son opinion. Aujourd'hui, c'est son opinion. Ça va peut-être changer plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est pour cela que Paul continue en disant, donc, Romains chapitre 14, verset 13, première partie, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » OK? Et cette phrase, ce mot « les uns les autres » mutuellement, c'est un mot qui se retrouve plusieurs fois dans Romains 14 et 15. Sur ce point des jugements, okay, parce qu'il dit « ne nous jugeons plus », donc c'est malheureusement, parfois c'est l'habitude des chrétiens de critiquer les uns et les autres, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il dit « arrêtez de le faire, ne nous jugeons plus, puisque c'est Dieu qui juge, ne nous jugeons plus les uns les autres ». Et sur ce point, donc Paul, il va dire d'autres choses encore plus fortes dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Là, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Eh bien, la loi devait nous amener à Christ. Et c'est le cas. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons reconnu nos péchés, qu'on est coupable, condamné, et Christ est mort pour nous. On a accepté Christ comme notre sauveur, on est sauvé, et c'est fini maintenant. Christ est la réalité, l'élément substantiel, essentiel et nécessaire. Nous avons cru en lui pour obtenir le pardon de nos péchés. En Christ, nous sommes libérés de la loi et de sa condamnation. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes également pardonnés. Et la Bible nous dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par contre, si nous commençons à nous fixer des règles aléatoires, ça va mal se terminer. Paul dit, en Colossiens chapitre 2 encore, que des règles telles que « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas » deviennent toutes pernicieuses par l'abus. C'est-à-dire, deviennent nocives et tendent vers la destruction. Si on commence à fixer tout un tas de règles que nous devons respecter pour être considérés comme des bons frères et sœurs, eh bien, tôt ou tard, on va se détruire les uns et les autres. Donc, même si dans le passé, vous auriez eu l'habitude de critiquer ou de juger ou de condamner certains de vos frères et sœurs, la Bible nous dit ici de ne plus le faire. Voilà un changement agréable à Dieu. N'utilisons pas nos langues pour diminuer la valeur de nos confrères en Christ. Jacques dit dans son épître que la langue est puissante comme le gouvernail de navire. Elle peut être destructive, pire que l'étincelle qui démarre l'incendie de la forêt. Mais elle peut aussi être un instrument de bien. Tout ce que vous faites se manifeste, soit par des pensées, soit par des paroles, soit par des actions, soit par des abstentions de paroles et d'actions. Dieu voit vos pensées et vos abstentions, mais les gens, ils ne voient que vos paroles et vos actions. Assurez-vous que vos paroles et vos actions contribuent au bien des autres. C'est ça le point de Paul ici. Que ce que vous dites, ce que vous faites, contribue au bien mutuel des uns et des autres. Verset 13, la seconde partie. Il dit, « Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. » Donc, ça veut dire une occasion de trébucher ou de tomber. Ou une occasion de chute, donc un genre de piège ou obstacle à son bon cheminement de chrétien. Alors, cette expression « à ne rien faire » se traduit littéralement « ne pas mettre ». Ne pas mettre devant ton frère quelque chose qui va faire obstacle à son bon démarche de chrétien. Gardez-vous de le faire, à ne rien mettre là. Alors cette idée-là nous fait penser à deux versets dans la loi de Moïse qui disent qu'il ne faut mettre devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Alors ça c'est Lévitique chapitre 19 verset 14, la deuxième partie du verset, et aussi dans Deutéronome chapitre 27 verset 18, il y a un verset, « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. » La méchanceté d'un tel acte est évidente. Est-ce moins méchant quand on fait égarer un frère ou une sœur? Dieu ne veut pas que nous rendions la vie des autres personnes plus difficile. Tout le monde a déjà suffisamment de difficultés dans leur vie. À chaque jour, dit Jésus, suffit sa peine. Ainsi, par cette expression « à ne rien faire », Paul introduit l'idée d'abstention. Abstenez-vous de le faire. Vous avez eu l'idée de mettre quelque chose pour faire un obstacle à ce frère? Ne le faites pas. Abstenez-vous. Mes amis, vous êtes maître de vos choix. Vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Une abstention, comme un jeûne, est faite pour le Seigneur et pour l'autre frère. Jésus enseigne clairement que lorsque vous vous abstenez, enseigner ça dans le contexte du jeûne, mais appliqué ici, quand vous vous abstenez de quelque chose, ne cherchez pas à être vu par les autres. Donc, si vous faites une abstention, faites-la gracieusement. « Oh, je ne vais pas le faire parce que je t'aime, je ne fais pas ça. » Ce n'est pas la peine de faire le bruit. Vous le faites gracieusement. Verset 14. « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Donc, cette phrase « qui le croit », ça veut dire selon le raisonnement de la personne. Il est réfléchi, puis pour quelque raison, il pense que c'est pur ou impur. C'est personnel, sa pensée. Donc, je vous rappelle encore que nous ne parlons pas ici des sujets qui touchent sur la sainteté de Dieu. Nous ne parlons pas ici des péchés. Un péché est un péché. Ce qui est saint, c'est saint. On ne peut pas changer ces choses. Les interdictions, par exemple, minimum dans Actes chapitre 15, ne changent pas. Mais nous parlons ici des habitudes ou des traditions humaines, des règles que je vais dire arbitraires et privées, comme, donc ce que dit Paul, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Okay? Si quelqu'un se fixe une règle, il va vouloir la garder. Et malheureusement, il va vouloir que les autres l'observent également. C'est la nature humaine. Il va se sentir coupable s'il transgresse sa règle. Et il va se sentir sali si les autres n'observent pas ses règles. Si vous fixez des règles privées, ou si quelqu'un vous a imposé des règles, vous n'allez jamais pouvoir vous séparer de cette règle sans rééduquer votre conscience d'après la parole de Dieu. Sans ce renouvellement de votre intelligence, dont Paul a parlé dans Romains chapitre 12 et verset 2, votre conscience restera toujours sensible sur ce sujet-là. Par exemple, une dame pourrait croire que porter une bague est interdit par la Bible. Une lecture correcte de 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5, montre que l'extérieur n'a pas d'importance en comparaison avec la beauté intérieure. L'interprétation correcte de ce verset permettra à corriger sa conscience. Ça peut être plein d'exemples. Là, c'est un genre de négatif vers le positif. Maintenant, je vais faire un genre d'exemple opposé. Donc, disons, si une personne ne se soucie pas de sa santé, pense que voilà, le corps n'a aucune importance, donc il ne se soucie pas de sa santé, eh bien, la Bible va lui apprendre que son corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et qu'il faut en prendre soin. Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous donner nos nouvelles normes de pensée. La parole de Dieu va corriger notre conscience. Verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, donc s'il est vexé, si vous lui posez du chagrin à cause de ce que vous mangez, eh bien, tout ne marche plus selon l'amour. C'est-à-dire, vous savez que ça le vexe et vous le faites quand même devant lui. Hein, vous pouvez le faire comme vous voulez chez vous. Mais si vous le faites devant chez lui et vous savez que ça va le vexer, il dit que vous ne marchez plus selon l'amour. Donc, vous transgressez le commandement de Jésus. Il dit, ne cause pas par ton aliment la perte, la destruction de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège, donc ce que vous considérez possible de faire, de manger, de où vous allez, etc., ne soit pas un sujet de calomnie. Que les autres qui sont plus sensibles ne vous critiquent pas, ne vous condamnent pas, parce qu'ils disent, ah, mais fais ce que je ne fais pas. OK? En tout cas, et en attendant qu'un frère qui est sensible mûrisse dans la foi, il va falloir respecter ses sensibilités quand vous êtes avec lui. Ce respect est une manifestation de votre amour pour lui, une démonstration que vous lui souhaitez le bien. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, les versets 16 à 18. Donc, l'apôtre Jean, qui parle dans 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Donc, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, Jean dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est une pensée finie. Mais il continue quand même. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Donc, l'apôtre Jean nous rappelle que par amour, le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et nous devons donc aimer les frères au point de mourir les uns pour les autres. Mais mourir pour une autre personne, c'est tellement radical et définitif que Jean dit tout de suite, il dit au moins, nous devons aimer en action. Au moins sacrifier quelques biens au profit de votre frère ou subir quelques inconforts pour lui. Donc, nous devons être prêts à mourir, mais quand même, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, mais nous, on préfère dire, ah, mais je vais mourir pour les frères, et on ne va faire rien de simple dans la vie. OK? Alors, je donne un autre exemple. Si un vegan vous invite à manger, vous pouvez accepter son invitation tout en sachant qu'il n'y aura pas de viande, il n'y aura pas de volaille, il n'y aura pas de poisson. Vous acceptez son invitation, voilà, vous respectez qu'il est, cette personne est comme ça. Par la suite, si vous l'invitez chez vous, en plus de ce que vous allez présenter pour les autres invités, parce que c'est chez vous, eh bien pour lui, vous allez lui proposer des légumes, les choses de base de légumes. S'il accepte de venir, c'est qu'il accepte de respecter votre menu. Ce n'est pas à lui de venir chez vous et critiquer ce que vous mettez sur la table. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, et ce mot-là veut dire tout à fait agréable à Dieu, et approuvé des hommes. Et ce mot approuvé des hommes, ça veut dire que, après analyse, les hommes ont observé vos actions, ils ont analysé et ils ont approuvé comment vous agissez. Verset 19. Ainsi donc, recherchant, poursuivez, traquez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuel. Donc, je reviens sur cette phrase, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il dit, n'est pas le manger et le boire. Ce que vous mangez ou buvez ne vous rend pas plus sain pour autant. Et ce que vous ne mangez pas ou que vous ne buvez pas ne vous rend pas plus sain non plus. Dans Matthieu 15, versets 17 et 18, Jésus a dit, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Donc Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous mangez, il s'intéresse à ce qui est dans votre cœur. C'est là que se trouve ou ne se trouve pas le royaume de Dieu dans votre cœur. Le royaume de Dieu, il dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est ni un royaume de ce monde, ni le royaume des ténèbres d'où Jésus nous a délivrés. Le royaume de Dieu, c'est ce domaine spirituel qui gouverne les cœurs qui sont soumis au principe de Dieu. Et il dit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par le biais de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous a immergés dans le corps du Christ, dans les lieux célestes, et c'est grâce au Saint-Esprit que nous manifestons, donc comme il a dit ici, la justice et la paix et la joie et encore plusieurs autres qualités spirituelles. Verset 20, première partie. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Ne renversez pas l'œuvre de Dieu. Donc je reviens sur la phrase l'œuvre de Dieu. Dans le verset 15, Paul a défini l'œuvre de Dieu comme la personne pour laquelle Christ est mort. C'est l'œuvre du salut dans chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Vos condamnations et vos critiques, si vous vous permettez de condamner, de critiquer les gens, hein, vos condamnations et vos critiques peuvent décourager et même détourner un jeune converti de son chemin pour suivre Christ et le relancer de nouveau dans le monde. Est-ce cela que vous voulez faire par vos critiques, de renvoyer un chrétien dans le monde? Ou voulez-vous détruire la confiance de vos enfants envers les autres croyants en critiquant constamment les frères et les sœurs de l'Église? Oh, il ne faut pas écouter ces gens-là, ils ne connaissent rien, ils sont stupides, blablabla. C'est pas ça qu'on veut faire à nos enfants. Mais ça arrive parfois, et vous porterez en vous la honte d'une telle responsabilité toute votre vie, si vous détournez quelqu'un de Christ par vos critiques. Le verset 20, la seconde partie, à la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, qui pourrait le faire trébucher, ou être de scandale, donc le faire pécher, ou de faiblesse. Et là, c'est l'idée de le rendre sans force. Il est bien de ne pas. Ceci veut dire, il est bien de s'abstenir. Il est bien de céder vos droits dans la poursuite du bien des autres. Nous voyons donc que l'amour ne se réclame pas de ses droits, mais l'amour s'abstient de ses droits quand cette abstention aide une autre personne. Ça veut dire qu'on a nos droits, on peut évidemment vivre selon nos droits. Mais parfois, nos droits, on va retirer un petit peu pour permettre à une autre personne de progresser un petit peu dans la foi. Alors, considère en ce qui concerne les choses que moi je permets à moi ou que vous vous permettez à vous, il dit, verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Si vous vous imposez une chose ou si vous vous permettez quelque chose que vous considérez bonne et utile pour votre vie de chrétien, donc, vous êtes convaincu que c'est bien, cela vous regarde. C'est bien, parce que vous avez réfléchi et vous êtes arrivé à une conclusion, à une assurance sur ce sujet. Et il dit, c'est devant Dieu. C'est entre vous et Dieu, cette idée, cette pratique. Mais ne faites pas de votre conviction de ce sujet-là un moyen de juger les uns et les autres. Ou ne faites pas de cela la base sur laquelle va reposer votre communion fraternelle avec les autres chrétiens. Ne l'imposez pas sur les autres. Par exemple, une sœur qui porte seulement des robes, donc par conviction, elle a arrivé à cette conviction, d'accord, ok, mais elle ne doit pas imposer cette préférence, cette conviction sur les autres dames. C'est simplement un exemple. En revanche, il y a beaucoup de sujets sur lequel Dieu a déjà donné un enseignement qui est bien clair dans la parole de Dieu. Par exemple, la Bible interdit qu'un croyant fréquente un non-croyant. Je veux dire, garçon et fille. Si vous arrivez à vous convaincre à transgresser une chose que Dieu interdit, eh bien, vous vous mettez en opposition au Seigneur. Ce n'est pas ça le sujet de ce chapitre. Mais si vous vous mettez en opposition et vous transgressez les choses que Dieu interdit, ça s'appelle un péché. Méfiez-vous des conséquences de cette désobéissance. Je le dis rapidement. Il y a une jeune fille dans notre église à San Francisco. Ça fait presque un siècle maintenant. C'était à l'époque de la guerre, Deuxième Guerre mondiale à peu près. Et elle a dit, ben non, c'est pas ça. Et donc, elle a fréquenté un jeune homme qui n'était pas chrétien. Et elle s'est mariée avec ce jeune homme en disant, ah, mais certainement, il va se convertir. Et je vous dis que jusqu'à la fin de sa vie, il n'est pas converti. Elle est décédée, ça fait déjà 20 ans, elle est décédée. Et son mari n'est jamais converti. Donc, elle a vécu toujours, toute sa vie, un ménage, sa foyer, la famille, en conflit sur la religion. Okay? Elle s'est donné ce droit de transgresser le principe de Dieu. Okay? Et c'est triste. Verset 22, la seconde partie. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Alors, moi, je peux vous dire à propos de cette dame, c'est elle qui m'a raconté cette histoire-là. Et elle ne s'approuvait pas de ce qu'elle avait fait. Elle reconnaissait que par la suite, que Dieu était plus sage et elle aurait dû choisir autrement. Okay? Mais ici, quand on a quelque chose, une personne qui choisit d'être vegan ou qui choisit d'être carnivore, eh bien, si devant Dieu, on a une conviction que je suis dans la bonne voie, c'est normal que je pratique ce que je veux. Je comprends. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Okay? Donc, dans les questions non morales, okay, non morales, du fait que vous êtes convaincu devant le Seigneur, vous n'avez rien à vous reprocher. Je ne parle pas des gens qui sont autour de vous. Je parle de la personne qui réfléchit et prend une décision devant le Seigneur, n'a rien à se reprocher. Pourtant, cela ne vous donne pas raison. Vous pouvez vous tromper. Et peut-être plus tard, vous allez changer votre opinion là-dessus. Et peut-être si nous connaissons que cette personne a fait une décision comme ceci ou comme cela, et nous savons que c'est pas sage, peut-être qu'il faut prier pour cette personne, n'est-ce pas? Mais pas le critiquer, pas le condamner. C'est ça le point ici, c'est pas le critiquer ou condamner les gens dans leur conviction. Ils ont leur conviction et c'est comme ça en ce moment. Mais verset 23 dit, « Mais celui qui a des doutes, donc c'est une personne qui est face à une question et puis il n'est pas arrivé à décider. Devant Dieu, il n'a pas pris une décision. Et donc, il a des doutes. Donc, l'exemple au sujet de ce qu'il mange. Et mais celui qui a des doutes de ce qu'il mange est condamné. Donc, il est condamné par sa propre conscience et pas condamné par les autres personnes. Mais du fait qu'il n'a pas pris une décision, il ne sait pas. Donc, il mange et puis il se condamne parce qu'il n'est pas décidé dans son cœur. Parce qu'il n'agit pas par conviction, dit le texte. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc Dieu veut, évidemment, que dans nos vies privées, on arrive à nous assurer que ce que nous faisons et que ce que nous ne faisons pas devant Dieu est correct. Okay? Alors pour développer une bonne conscience, il faut revenir à Romains chapitre 12, verset 2. Permettez au Seigneur de corriger vos pensées et donc vos habitudes. Parce qu'il faut changer la pensée en premier pour que vous changez aussi vos habitudes. Ceci n'est pas facile, je suis d'accord. Il faut de la bonne volonté pour chercher l'optique du Seigneur et puis par la suite s'y soumettre. Frères et sœurs, Dieu est pour nous. Amen. Dieu est pour nous. Il a déjà vaincu et il assure notre salut. Il nous encourage à progresser vers la victoire. Il veut notre réussite. Mais les enjeux sont au niveau spirituel et non pas tellement au niveau matériel. Dans beaucoup de religions et tout ça, tout se passe sur le niveau matériel et argent et bougies et statues et tout ça. C'est pas sur ce niveau matériel, c'est ici dans le cœur et devant Dieu que tout cela se passe et puis face aux frères. Donc, ne cherchons pas les supposées fautes des uns et des autres sur le niveau matériel. Ce que l'on mange ou ce que l'on boit, des sabbats, des jours fériés, focalisons sur le besoin d'aimer les uns et les autres. Focalisons sur le besoin d'encourager les uns et les autres. Focalisons sur les manières de faire du bien mutuellement. Donc, dans le dernier message, on a vu globalement que c'est Dieu qui gère. Hein? Nous, on doit prendre un pas en arrière et laisser Dieu gérer. Dieu est Dieu. Ici, on commence avec ne jugez plus les uns les autres, mais voilà, il est bien de s'abstenir si ça va aider votre frère à progresser. Et puis, on va finir ce thème la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, je voulais lire dans 1 Jean chapitre 4, pour terminer le message, 1 Jean chapitre 4, et nous allons lire les versets 7 à 11. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on aime les uns et les autres.